Le gouvernement fait le bilan de son déplacement à Paris et de ses rencontres avec les plus hautes autorités, dont le président de la République et le Premier ministre, pour exposer l'urgence de la situation en Nouvelle-Calédonie. Le grand chef du district de Kumak, William Boirat, décède sous les coups d'un homme de 24 ans. Le coutumier de 66 ans voulait s'interposer dans une situation de violence conjugale. Il a été tué d'un coup de poteau en bois à la tête. Le cri d'alarme des acteurs du BTP, toujours pas de chantier en vue et certaines entreprises au bord de la faillite. 50% des sociétés qui fermeraient en janvier représenteraient 3000 salariés au chômage. La côte Est se remet doucement de l'épisode de forte précipitation de ce début de semaine. Par endroits, il est tombé l'équivalent de plus d'un mois de pluie en seulement quelques heures. Le Black Friday, 3 jours de promotion commerciale à partir de vendredi. Les commerçants attendent beaucoup de cette opération dans l'optique des fêtes de fin d'année. La cérémonie du concours Livre mon ami, des lectures à voix haute pour les enfants qui ont plébiscité les tisseurs de rêves, Manel et les mélodies secrètes. Et en football, l'AS Magenta décroche le titre de champion du Grand Nouméa à l'occasion du tournoi exceptionnel mis en place par les clubs alors que les compétitions ont été arrêtées en raison des émeutes du mois de mai. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Les autorités de l'État, y compris le président de la République et le Premier ministre, ont prêté une oreille attentive et intéressée à la délégation du gouvernement qui s'est rendue à Paris. Elle était conduite par Louis Mapou, qui était accompagné de Gilbert Thuénon, Christopher Gigès, Yannick Slamet et Thierry Santa. Ensemble, ils ont tous les 5 dressé un bilan de leur mission, au cours de laquelle ils ont reçu des assurances budgétaires et un engagement de leurs interlocuteurs à accompagner la mise en œuvre du PS2R, Jean-François Baudin.
Une mission marquée par de très nombreuses rencontres qui ont à chaque fois donné lieu à des séances de travail. Après avoir rencontré le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, les membres du gouvernement ont été reçus par le président de la République, Emmanuel Macron, en présence de son directeur de cabinet et du secrétaire général de l'Élysée, puis par le Premier ministre Michel Barnier. Ils ont poursuivi leurs entretiens avec Laurent de Saint-Martin, ministre du Budget, et Antoine Armand, celui de l'Économie. Auprès du Premier ministre, ils ont reçu l'assurance que l'État garantirait le prêt de 120 milliards que la Calédonie va contracter auprès de l'AFD, a rappelé Louis Mapou.
Le Premier ministre nous a annoncé ce que j'avais déjà indiqué, qu'il présenterait à la loi de finances une proposition de garantie de prêt au profit de la Nouvelle-Calédonie pour un prêt qu'on contracterait avec l'AFD de l'ordre de 120 milliards pour assumer l'année 2025, ce qui nous permettra de pouvoir présenter un budget en début d'année pour permettre à toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie de pouvoir faire face aux difficultés qu'elles ont déjà, mais aussi un petit peu de se projeter. Donc ça, c'est pour l'année 2025.
Ce prêt de 120 milliards sera contracté à un taux préférentiel avec un début de remboursement différé à 5 ans. Sur ces 120 milliards, 65 permettront à la Calédonie d'assurer ses échéances budgétaires, notamment vis-à-vis des collectivités et des organismes sociaux pour l'année 2025. Le reste permettra de rembourser les 55 millions d'urgences déjà versés par l'État au titre de l'année 2024. Et en plus de ce prêt, il reste aussi des possibilités de trouver des aides supplémentaires sur des projets précis qui pourraient être fléchés directement par les différents ministères concernés. Au cours de leur mission, les membres de la délégation ont également rencontré plusieurs organismes techniques, l'AFD bien sûr, ou encore la Caisse des dépôts, mais aussi la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, ou la CIRI, le Comité interministériel de reconstruction industrielle, pour parler de l'accompagnement d'un certain nombre de structures comme Ercalin, la clinique Queen Domanien ou encore Enercal. Tous leurs interlocuteurs ont souligné les membres du gouvernement, les ont aussi assurés d'un accompagnement technique pour décliner le plan PS2R qu'ils ont étudié et sur lequel ils ont parfois demandé des ajustements ou des précisions. Et c'est un pan très important de l'aide de l'État, a souligné Christopher Gigès.
Les accompagnements techniques qui sont essentiels pour la Nouvelle-Calédonie, déjà sur le plan de l'énergie où on a rencontré la présidente de la CRE qui va nous permettre de travailler sur un dispositif du baisse de coût de l'énergie, mais également tout un tas d'accompagnements techniques sur la partie fiscalité, comment on engage la réforme fiscale, comment on améliore notre système de santé, comment on écrit nos textes juridiques pour engager ce plan. Le PS2R est vraiment la pierre angulaire au final du soutien de l'État et donc des réformes qui seront accompagnées, notamment de baisse de dépenses publiques et de frais de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie. On travaille sur la baisse des dépenses publiques, la baisse de nos dépenses de fonctionnement. On ne souhaite pas augmenter la fiscalité, on ne souhaite pas alourdir la fiscalité sur les Calédoniens, mais vraiment baisser notre train de vie et donc permettre à la Nouvelle-Calédonie de fonctionner normalement. La Calédonie, elle a besoin de réformes, elle a besoin d'un soutien de l'État, mais elle a besoin de baisser son train de vie.
Il était important à souligner, Christopher Gigès, également pour les plus hauts responsables de l'État, de voir des élus calédoniens de tous bords politiques politiques, indépendantistes et non-indépendantistes, porter des solutions en commun.
Une mission du gouvernement sur laquelle nous reviendrons demain matin à 7h30 sur RRB, puisque c'est Christopher Gigès qui sera notre invité du matin. Si la mission du gouvernement a reçu des assurances sur l'accompagnement de l'État, la Calédonie reste dans une situation financière extrêmement fragile et elle n'est pas sortie d'affaire. Dans ce contexte, le vote de la décision modificative numéro 6 du budget, prévue dans quelques jours au Congrès, est crucial, Jean-François.
Cette décision modificative vise à intégrer la dernière tranche de l'aide de l'État pour 2024 d'un montant de 27 milliards. Elle sera étudiée vendredi en commission au Congrès avant d'être examinée en séance publique le 11 décembre. Alors que certaines oppositions se manifestent au Congrès, Louis Mapou a tenu à rappeler l'importance du vote de cette décision modificative. Il y a selon lui des enjeux budgétaires, mais aussi politiques.
Cela permettrait d'aller jusqu'à la fin de l'année. C'est pour ça qu'il est impératif que les uns et les autres qui sont dans la responsabilité en perçoivent bien l'acuité pour que, du fait de ce qui pourrait se passer en Israël, on soit prémunis jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'on peut imaginer que si je n'étais pas habilité à signer la convention au nom du gouvernement et que l'ADM 6 n'était pas adopté, nous allons entrer là dans une spirale dont personne n'imagine ce que ça pourrait être. Mais en tout cas, on sait que la plupart des collectivités seront en cessation de paiement. Et au-delà de ça, jusque-là, nous avons évité une crise institutionnelle, malgré les événements. Si d'aventure cette dernière tranche de l'ADM 6 n'était pas adoptée, j'ai bien peur que c'est une crise institutionnelle qui s'invite. Je ne sais pas si pour la Nouvelle-Calédonie a besoin de cela. En ce moment, en tout cas, l'ADM 6 nous permettait d'aller jusqu'à la fin de l'année et bien sûr de voir venir.
Face aux risques budgétaires qui pèsent encore sur la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a adopté ce matin un certain nombre de dispositions. Si le budget 2025 ne pouvait pas être adopté d'ici le 31 décembre 2024, dans cette situation, le président du gouvernement aura en effet la possibilité de mettre en recouvrement les recettes et d'engager ou de liquider par mandat, par 12e, les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Le texte autorise également le reversement de la TGC avant le vote du budget primitif à plusieurs organismes pour financer leurs dépenses obligatoires et prioritaires. Il s'agit notamment de l'Agence sanitaire et sociale, de l'Agence pour le remboursement de la dette Covid, de l'Agence pour la desserte aérienne de la Calédonie ou encore de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Enfin, pour éviter de mettre en difficulté les établissements d'enseignement et ne pas perturber le bon déroulement de l'année scolaire, le texte propose d'autoriser le président du gouvernement à engager les dépenses relatives à certaines subventions d'équipements individualisés. Le vote du budget ne devrait pas intervenir dans tous les cas avant le début de l'année 2025 et il dépend aussi d'une donnée sur laquelle la Calédonie n'a pas la maîtrise. Si le Premier ministre a recours à l'article 49.3 pour faire adopter le budget et que la motion de censure brandie par la France insoumise est adoptée, le gouvernement tombe, le prêt de 120 milliards à la Calédonie aussi, et il faudra tout reprendre à zéro avec la nouvelle équipe gouvernementale qui sera installée après, on l'imagine, plusieurs semaines de crise politique.
Merci Jean-François Bodin. Le gouvernement réunit ce matin par ailleurs examiné un projet de loi du pays pour soutenir la reprise de l'économie. Parmi les mesures du texte, la prolongation de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires, l'augmentation du plafond global des charges déductibles pour les dépenses relatives aux travaux, la création d'un amortissement exceptionnel pour les entreprises qui ont dû cesser temporairement ou définitivement leur activité à la suite des émeutes. Autre grand titre dans l'actualité ce mercredi, la mort du grand chef William Boirat du district de Koubak. Le procureur de la République a annoncé ce matin l'ouverture d'une enquête pour homicide volontaire. Le drame a eu lieu la nuit dernière à Wako, dans un contexte d'alcoolisation. Un homme de 24 ans s'en est pris à sa concubine sur laquelle il a porté des coups. Le grand chef, âgé de 66 ans, a tenté de s'interposer pour protéger la victime, qui est sa petite fille de cœur, indique le procureur dans son communiqué. L'agresseur, violent, s'est alors emparé d'un poteau en bois et il a frappé le grand chef à la tête. Arrivé sur place à 1h du matin, les secours ont trouvé le grand chef Boirat inconscient. Son décès a été constaté à 4h40 du matin par le médecin du dispensaire. L'auteur des coups mortels a été interpellé et placé en garde à vue. L'enquête est toujours en cours. Le mis en cause et les témoins sont actuellement entendus par les enquêteurs. Justice, c'est une histoire d'amitié qui se termine de manière dramatique. Depuis ce matin, une affaire de meurtre en appel est jugée aux assises de Nouméa. Un individu est accusé d'avoir tiré dans le dos de son ami d'enfance à la tribu de Newa à Wailou pour des raisons inconnues, Léana Colombo.
Nous sommes le matin du 4 juillet 2021. La victime, Dylan, se rend sur le terrain de sa future maison dans la tribu avec sa compagne et sa fille de 2 ans. Il y croise alors Zachary, un ami d'enfance avec qui il n'avait jamais eu de problème auparavant, selon les habitants de Wailou. Seulement voilà, la semaine avant ce jour fatidique, Zachary aurait tiré dans le pare-brise de la voiture de la victime et mis le feu à des broussailles près de leur habitation. Dylan se rapproche donc de Zachary qui est équipé d'un fusil de chasse pour lui demander pourquoi avoir agi ainsi. Des mots sont échangés mais uniquement connus des 2 hommes. La compagne et la fille de la victime étant parties en direction de la maison de la grand-mère de Dylan. 1 minute après avoir atteint le domicile, sa compagne entend un coup de feu et voit la victime venir vers elle en se tenant le dos et s'effondrer sur le sol. Elle tente de le ranimer et appelle les secours, mais il est trop tard. La gendarmerie et les médecins arrivés sur place ne peuvent que constater le décès de l'homme. Zachary, qui s'est enfui après les coups de feu, est ramené aux gendarmes par les membres de la tribu. S'ensuit alors un premier procès l'année suivante où l'accusé a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, lors de ce nouveau procès en appel, l'accusé, désormais âgé de 24 ans, n'a pas souhaité s'exprimer après lecture du rapport. Un rapport qui indique que selon les médecins, le mis en cause est un homme aimant la chasse, la pêche, buveur occasionnel et fumeur depuis ses 11 ans, ne présentant pas de troubles psychologiques, mais toutefois une dangerosité sociale et criminelle. Je veux essayer de comprendre pourquoi il a fait ça alors que nous n'avions aucun problème avec lui. J'ai besoin de comprendre pour continuer à avancer, pour moi, mais surtout pour ma fille qui grandit, a déclaré lors de son audition la compagne de la victime avec émotion. Parmi les autres témoins auditionnés, le premier gendarme arrivé sur les lieux. D'autres personnes doivent encore être entendues aujourd'hui et demain, jour de clôture de ce nouveau procès.
Justice toujours, le docteur Olivier Pérez sera jugé à Lyon. Il doit être jugé pour la 3e fois pour avoir tué Éric Martinez de 3 coups de fusil sur le golfe de Tina en septembre 2018. Il avait été condamné à 20 ans en première instance, puis 15 ans de réclusion criminelle en appel. La Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la Cour d'assises d'appel car elle n'avait pas motivé le rejet d'une demande d'expertise médicale. La haute juridiction a donc ordonné un nouveau procès. Écoutez la réaction de Maître Aguila, avocat du docteur Pérez.
Les droits de la défense n'ayant pas été respectés comme nous l'avions signalé devant la Cour d'assises et comme nous l'avions dit en sortant de la Cour d'assises, souvenez-vous, nous avions dit qu'immédiatement nous formerions un pourvoi en cassation et la Cour de cassation nous a suivis et a donc annulé cette décision, premièrement. Deuxièmement, Cour d'assises de Lyon, pas de problème. Nous allons avec une grande confiance devant la Cour d'assises de Lyon pour obtenir son acquittement et nous veillerons une fois de plus à ce que les droits de la défense et les règles de procédure soient respectés, ce qui n'a pas été le cas devant la Cour d'assises d'appel de Nouméa et ce que la Cour de cassation a formellement dit désormais en suivant notre requête.
Le parquet général de Nouméa a demandé à la haute juridiction de dépayser le dossier car un grand nombre de magistrats a déjà travaillé sur ce dossier. C'est donc ce qu'elle a fait dernièrement en saisissant la Cour d'assises du Rhône.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur RRB. Notre question du jour, trouvez-vous trop sévère la peine de 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée à l'encontre de Jacques Lallier? Si vous trouvez qu'elle est trop sévère, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. 98% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les conditions ne seront pas réunies pour la levée du couvre-feu et de toutes les restrictions administratives au moment des fêtes de fin d'année. Ils ne sont que 2% à être d'un avis contraire.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
La FCBTP lance un cri d'alarme. Les carnets de commandes des entreprises du BTP sont vides alors que les besoins sont importants. La Fédération calédonienne du BTP interpelle donc l'État. Les entreprises sont en difficulté et malgré les aides annoncées, aucun chantier de reconstruction n'est lancé. Or, pour Benoît Meunier, le président de la FCBTP, seul l'État peut sauver ce secteur d'activité.
On a beaucoup d'annonces, notamment de l'État, qui injecte des milliards dans l'économie. Mais nous, malheureusement, dans le secteur du BTP, on n'en a pas vu la couleur. Il n'y a aucun chantier qui n'a été lancé. Le secteur privé ne va pas investir pour le moment tant qu'il n'y a pas de la confiance dans la Nouvelle-Calédonie. Et donc il est important que ça soit le secteur public qui prenne le relais. Le seul qui peut sauver un peu le tissu économique en Calédonie du secteur du BTP, c'est l'État. C'est vraiment un secteur endogène, et donc il suffit d'avoir une volonté politique et une volonté de sauver ce secteur qui représente quand même 10% du PIB et 10% d'activité en Calédonie. 10% des salariés travaillent dans le secteur du BTP.
La FCBTP demande du travail immédiatement avec la reconstruction des structures détruites. Je rappelle que l'État s'est engagé à prendre en charge 100% pour les écoles, 70% pour les autres bâtiments publics, mais aussi en finalisant le contrat de développement en cours et en lançant rapidement la nouvelle génération 2024-2027, un besoin urgent car les sociétés du BTP souffrent. 43% des entreprises ont perdu plus de 50% d'activité depuis le mois de mai. La majorité des sociétés a moins de 3 mois de trésorerie disponible, des entreprises qui sont à l'agonie.
À l'agonie parce que donc elles n'ont pas d'activité. On subit déjà la crise depuis maintenant plus de 3 ans. Et en plus, vient se rajouter à ça, le peu de chantiers qui ont continué, on n'est pas payé. Les collectivités n'ont pas les moyens de régler leurs factures. Donc ça fait des fois 6 mois que les factures restent impayées pour des travaux qui ont déjà été réalisés. Bien sûr, les entreprises sont menacées. 50% des entreprises du BTP envisagent leur fermeture de leur société en 2025.
50% des sociétés qui fermeraient, cela représenterait 3000 salariés au chômage. La dernière publication de l'Institut de la Statistique et des Études Économiques de mai à octobre 2024, sans surprise, les importations ont été largement inférieures à celles de 2023, une baisse de 35% selon l'ISEE. Un signe que la demande intérieure ne redémarre pas, impactée par les réductions ou cessations d'activité des entreprises, par la baisse de pouvoir d'achat des ménages et une chute de l'investissement. Dans le même temps, l'emploi salarié est en difficulté avec environ 9 000 salariés privés d'emploi, dont 4 900 indemnisés au chômage, chômage total. 16 700 personnes encore salariées sont concernées par une autorisation de chômage partiel pour le mois d'octobre, en particulier dans les secteurs du nickel, du commerce, du transport et de la reconstruction. De plus, les prix à la consommation augmentent en octobre, tirés par l'électricité, les produits manufacturés et les transports. Les prix de l'alimentation restent stables, mais leur hausse de 6,7% depuis le début de l'année impacte aussi le pouvoir d'achat des ménages et fragilise particulièrement les plus modestes, qui consacrent 28% de leurs dépenses à leur alimentation, toujours selon la dernière note de l'ISEE. En bref, une information pratique avec une hausse en vue du prix des carburants. À compter du 1er décembre, le sans-plomb augmentera de 2,80 francs le litre. Il sera affiché à la pompe à 160 francs le litre pour le gazole. C'est aussi une hausse de 1,20 francs. Le litre de gazole sera affiché à 138,40 francs à la pompe, et ce, dès dimanche. Il est 18h passé de 3 minutes. Après la pub, nous évoquons un début de semaine sous la pluie sur la côte Est et une fin de semaine Black Friday chez les commerçants. À tout de suite.
C'est déjà Noël chez Simac Quincaillerie. Depuis le 15 novembre, découvrez notre catalogue en ligne de machines Makita à prix canon sur simac.nc. Les bonnes idées cadeaux, c'est chez Simac Quincaillerie. À Nouméa, carrefour du 4e, et à Koné, lotissement Kateviti. Simac Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
1 million. 1 million de francs en bons d'achat à gagner sur RRB. Pour jouer, envoyez maintenant RRB au 40-20.
Tirage au sort le 30 novembre parmi tous les SMS.
1 million en bons d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Sans oublier les 100 000 francs de bons d'achat qui continuent de tomber chaque semaine. Alors n'attendez plus, RRB au 40-20.
371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio.
Info soir, Michael Juneski.
Un épisode pluvieux très intense a touché le nord et la côte est ces 3 derniers jours. Pas de dégâts majeurs, mais ce sont des relevés pluviométriques particulièrement significatifs qui ont été enregistrés par les services Météo France de Nouvelle-Calédonie. Les experts parlent de l'équivalent d'un mois à 2 mois et demi de pluie tombée par endroit par rapport au cumul habituellement enregistré pour novembre, et ce sur les seuls épisodes de lundi après-midi et dans la nuit de mardi à ce matin. 257 mm à Pointe-d'Imier, 392 mm à Ponérewin, 142 mm à Yengen. Des criques et des cours d'eau ont débordé, provoquant par endroit la fermeture de la circulation. Nous avons fait le point avec le maire de Yengen, Bernard Houillat.
On a eu deux fois un peu plus, on va dire 48 heures déjà, deux fois un peu plus qui ont beaucoup impacté sur nos réseaux routiers, je veux dire routiers, AEP, sur la route provinciale, le bac aussi qui a été coupé jusqu'à aujourd'hui, ce matin. Sinon, au niveau de nos écoles, on a fait partir nos enfants et fermer les écoles. On a des enfants qui, tous les matins, traversent des creeks, des rivières, des ponts, et pour éviter, il faut qu'ils rentrent chez eux avant que voilà, les choses se dégradent de plus en plus. Au niveau de nos écoles, on a eu la coupure d'eau. On reprend les cours normalement demain matin. Les cours reprendront demain matin normal. Je dis c'est exceptionnel, la pluie qu'on a eue hier, hein, ben, on n'a jamais eu. Enfin, c'est pas qu'on n'a jamais eu ça, mais une fois de plus de, je sais pas, 4 heures, 3 heures, 4 heures d'un coup. C'est, voilà, c'est un peu, c'est nouveau pour nous, quoi. Monter les rivières qui ont envie de monter, voilà, le courant dans nos rivières, coupure d'eau. C'est un peu le, voilà, l'état où on s'était retrouvé hier jusqu'à ce matin. Quoi.
Bernard Houyat, le maire de Yengen et à Ponérewa, une famille habitant au bord de mer, a dû être relogée pour ce début de semaine par la mairie par mesure de précaution en raison de la montée des eaux. Une opération commerciale en vue. Le Black Friday se déroulera de vendredi à dimanche. Des promotions exceptionnelles seront proposées. Cette opération pourrait apporter une grande aide à tous les gérants de boutiques. Illustration avec ces commerçants du centre-ville de Nouméa.
Donc la boutique Yves Rocher participe au Black Friday. C'est une date quand même assez importante et en plus il y a les fêtes qui arrivent, donc on a pas mal de passages en magasin. Et après, avec tout ce qui s'est passé, les clients aiment se faire plaisir, aiment faire plaisir à leurs proches, donc ça fait toujours plaisir. De faire plaisir aux clients.
Vous attendez à quoi pour ces trois jours de Black Friday ?
C'est un peu aléatoire en ce moment. On a des moments où on a beaucoup de passages, d'autres où c'est un peu plus calme. Donc on verra bien comment ça va se passer ce week-end, mais on espère que ça va être dans le positif pour tout le monde, quoi. Optimiste, oui. Il faut.
Alain, la boutique, c'est Hype Corner. Costumes pour les mariages, communion, pour les soirées, chaussures, shorts, t-shirts, polos, voilà. Je solde tout le magasin à partir de vendredi. Comme tous les ans, on l'attend. Et puis voilà, j'espère qu'on va rattraper un peu le chiffre qu'on a perdu en début d'année. Voilà, on espère que ça retravaille. Les gens, ils vont préparer leur fête de Noël, ils vont acheter au moins cher. J'espère que ça va, que tout le monde sera content.
Je suis Émilie et je suis la responsable du Miniso. On le fait comme tous les commerçants. Donc là, on va fêter aussi la réouverture de notre boutique à Pogoti. Plein de promotions sur toute la boutique. On est un peu mitigé parce qu'avec les événements, on sait très bien que beaucoup de personnes sont en difficulté financière. Donc on espère quand même avoir plus d'affluence que la normale. Donc on espère que ça va attirer du monde. On voulait surtout qu'il y ait accès à toutes les personnes pour les clients avec des prix au plus bas possible, surtout que c'est l'arrivée des fêtes. Donc je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Donc pour les fêtes, ils commencent déjà même à faire les cadeaux petit à petit pour Noël. Donc avec le Black Friday, on espère qu'il y aura encore plus de monde pour faire plaisir à tout le monde.
Des promotions exceptionnelles donc, après une année largement perturbée pour l'économie et un impact pour l'ensemble des commerçants calédoniens, c'est ce que nous a dit Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants.
Le Black Friday est un événement commercial incontournable, même en Nouvelle-Calédonie, il est mondial. Donc nous y participons tous les ans avec beaucoup d'attentes positives sur cet événement. Là, cette année, c'est un petit peu particulier avec effectivement un climat économique et social extrêmement tendu et compliqué. Beaucoup de départs de Nouvelle-Calédonie qui se font vraiment ressentir au niveau de la fréquentation des commerces. Également une perte du pouvoir d'achat des Calédoniens, certains ayant perdu leur emploi, d'autres étant soumis au chômage partiel avec une baisse du salaire en conséquence.
Cette opération, elle arrive finalement à un bon moment pour les commerçants ici en Nouvelle-Calédonie ?
Pour le commerce, l'important, c'est réellement de pouvoir générer de la trésorerie parce que ça devient capital, vital même pour certaines entreprises commerciales. Au niveau de la clientèle, évidemment, dans un cadre de vie chère et de baisse de pouvoir d'achat, c'est également une opportunité pour eux de bénéficier de remises attractives, peut-être anticiper certaines courses de Noël. C'est une tendance un peu différente finalement que les années précédentes où là nous sommes en pleine crise, chose qui n'était pas le cas avant et qui était quand même plus agréable pour un commerce en marge de la préparation de cet événement incontournable.
Un Black Friday qui pourrait également attirer la foule dans les zones de Dimbéamol ou encore de l'Hyperru de Païta qui a ouvert ses portes récemment. La province sud veut relancer le tourisme. Elle vient de créer une plateforme, une marketplace, sur laquelle le client va trouver toutes les prestations touristiques sur un même site. Et nous en parlerons demain dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu avec nos trois invités. Alexandra Gambino, responsable commercialisation à Sud Tourisme. Eugénie Kerlo, responsable communication et marketing à Sud Tourisme. Et Flore Roudot, chef du service tourisme à la direction du développement économique de la province sud. En bref, le Nouméa Women's Forum continue plus demain et vendredi. Ce jeudi, des ateliers sur le thème dans l'entrepreneuriat au féminin se dérouleront à la FOL. Vendredi, l'événement prendra ses quartiers au CAPS, le centre administratif de la province sud.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Avec le réchauffement climatique, les experts océanographes et biologistes notamment lancent ce soir le projet Maewa. Objectif, Léo Fichou, trouver des solutions face aux canicules marines.
Maewa ou Maewa, comme on veut, signifie Marine Heat Waves, vague de chaleur marine, tout simplement canicule marine. Un épisode durant lequel les températures de la mer sont très anormalement chaudes, au-delà des normales saisonnières. Maewa, c'est un projet qui vise à construire des solutions d'adaptation face à ces canicules marines. Sophie Cravatte, directrice de recherche à l'IRD et océanographe physicienne.
Un des buts de ce projet, c'est de proposer des solutions. Alors, on ne pourra jamais stopper ces canicules marines, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider les gestionnaires à se préparer. En cas de crise, on va leur donner des outils d'aide à la décision, donc des bulletins pour prévoir en fait les canicules marines qui arrivent. Donc ça sera fait en lien avec Météo France. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va tester des prototypes de solutions. Donc d'abord pour améliorer la résistance de certains coraux lors de la restauration corallienne et aussi augmenter la résistance au stress thermique de certaines espèces d'intérêt à la fois pour les petites pêcheries et pour l'aquaculture.
Mais avant de mettre en place quelconque solution pour lutter contre ces canicules marines, dues, on le répète, au changement climatique, Sophie Cravatte explique qu'il faut d'abord améliorer les connaissances sur les risques que représentent ces vagues de chaleur en mer.
Actuellement, on a vraiment un manque de connaissances avant de pouvoir proposer les solutions. Donc typiquement, on a des océanographes physiciens et des climatologues qui vont essayer de prévoir en fait quels seront les risques liés aux canicules marines dans un changement avec le changement climatique. Donc est-ce qu'il y aura des zones en Nouvelle-Calédonie qui seront plus impactées, des zones qui seront protégées. On va aussi essayer de mieux comprendre quels sont les coraux et quelles sont les espèces qui peuvent résister. Et puis on va essayer de comprendre l'impact que ça a et la vulnérabilité des sociétés insulaires. Donc ce soir, on va tous se réunir, à la fois les scientifiques et les gestionnaires, pour lancer le projet, se mettre ensemble autour de la table et bien préciser ce qu'on va pouvoir faire pendant ces 4 ans pour, in fine, proposer ces solutions.
Et dans ce projet Maewa, il y a aussi une large partie consacrée à la co-construction de ces solutions avec les populations et les associations locales.
Merci. Il est 18h passé de 12 minutes. Une dernière page de publicité avant d'évoquer le concours des jeunes lecteurs Livre Mon Ami et le nouveau trophée soulevé par l'AS Magenta.
De salaire à gagner avec Nestlé.
Jusqu'au 31 décembre prochain, tente de remporter un an de salaire en bon d'achat à dépenser dans tes enseignes préférées.
Pour jouer, achète 2 produits Nestlé, écris ton nom, prénom et numéro de téléphone derrière ton ticket de caisse et glisse-le dans l'urne en magasin.
Participe en ligne sur jeunestlé.nc/salaire. Règlement du jeu disponible chez Nestlé et chez Maître Citrita.
Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
Mivi réouvre en octobre. Nos vitrages répondent à tous vos besoins. Service sur mesure et dépannage urgent.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Mivi, votre expert en verre depuis 1994.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Soir, Mickaël Gineski.
Au chapitre culturel, une cérémonie de remise était organisée aujourd'hui, celle de Livre Mon Ami 2024. Ça se passait à la province sud, Kélinda Boisco.
Des élèves sélectionnés des classes de CM2 et 6e des établissements scolaires venant des 3 provinces ont participé au concours de lecture à voix haute. Elles ont lu des extraits de livres qui a été plébiscité pour cette 28e édition de l'opération Livre Mon Ami, Les Tisseurs de Rêves, Manel et les Mélodies Secrètes de Manon Vache-Fargeton.
Ravine Perrancel. Je viens du GOD de Kouawa. On a lu un extrait de Tisseurs du Rêve. C'était bien, on a tremblé un peu, mais sinon le stress s'est passé.
Je m'appelle Mero Laina et je viens du collège public de Kanala. J'étais accompagnatrice avec Agine qui vient du collège de Kouawa. Il y avait beaucoup d'activités. Il y avait des entraînements de voix, des sortes de virelans qu'on devait faire devant et des tests au micro pour s'habituer à parler fort.
Suzanna, je viens de l'école Théhari à Cogny.
Je viens de participer à un concours de lecture à voix haute, Livre Mon Ami. On a lu Tisseurs de Rêve. Il était très bien cet après-midi parce qu'il y avait beaucoup de monde, On a eu plein de conseils et je trouve ça génial.
J'ai une amie très des jeunes de l'école Robert Burke à Nouméa. C'était cool parce qu'on a lu et on a eu plein de conseils et puis c'était chouette. On a reçu un prix, on a reçu des livres et puis un trophée.
Audrey et je suis de l'école de Tadine à Marais. Ben, j'ai lu Les Tisseurs de rêves.
Adjaïssa. Moi, je viens du collège de Tuban. Ce matin aussi, on était avec Marité Souéné pour nous préparer notre texte et c'était vraiment bien.
Et cette année, c'est plus de 5000 jeunes lecteurs des 267 écoles des trois provinces qui ont participé à cette édition 2024. Les précisions de Françoise Guépy, la présidente de l'association Livre Mon Ami 2024.
Cette cérémonie, elle était un petit peu particulière cette année puisque l'année a été particulière. Les lectures ont dû être organisées de façon numérique puisque des livres ont disparu, ont été brûlés, ont été perdus. Mais on a quand même réussi à tenir à la fois le prix littérature et le concours de lecture à voix haute. Et aujourd'hui, on avait une petite cérémonie pour fêter les lauréats du concours de lecture, les lauréates, puisque ce sont des filles, du concours de lecture à voix haute. Elle s'est bien passée, pleine de stress pour nous, parce que tout a été organisé un petit peu au dernier moment et selon les disponibilités des unes et des autres. Mais en revanche, c'était plein d'émotions. On a eu de la musique, on a eu de la danse, on a eu des enfants qui ont lu merveilleusement bien, on a eu des poésies. Ça a été un moment, je trouve, assez... C'est magique.
L'auteur du livre lauréat 2024, Les Tisseurs de rêves, Manel et les Mélodies secrètes, de Manon Fargeton, viendra donc l'an prochain pour rencontrer ses jeunes lecteurs.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Du sport pour finir et du football. Et l'AS Magenta qui a remporté hier soir le trophée du Grand Nouméa, Léo Fichot.
Et oui, après 15 journées, on disputait hier soir les deux derniers matchs de ce tournoi amical, un tournoi organisé par le Dumbé AFC pour pallier à l'arrêt des compétitions officielles suite aux exactions. Le suspense était encore total puisque deux équipes pouvaient terminer en tête du classement, l'AS Magenta d'un côté et Horizon Passau de l'autre. Dans le premier match de la soirée, Horizon s'est largement imposé 10-1 sur le CO Melec et revenait donc à égalité de points en tête du classement avec Magenta. Mais dans le second match, les joueurs de Pierre Wajoka n'ont pas tremblé et ils ont battu le Mont-d'Or 3-1. Une victoire qui permet à l'ASM d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni.
Merci beaucoup, Léo Fichot, 18h17, l'heure de votre bulletin météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Michael. Alors cette nuit, aux loyautés, des nuages circuleront et déposeront quelques ondées. Sur l'ouest, les éclaircies s'élargiront ailleurs. Les averses seront plus nombreuses, voire orageuses sur l'extrême nord, puis sur le nord-est. Sur l'ouest, le vent mouillera autour de 5 nœuds de secteur est. Ailleurs, l'alizée d'est à sud-est soufflera autour de 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord-est et la pointe sud. Les températures resteront élevées avec un mercure compris entre 20 et 24 degrés. Demain matin, les nuages élevés s'évacueront progressivement de la grande terre et laisseront le soleil s'imposer sur l'ouest. Ailleurs, des paquets nuageux portés par l'alizée occasionneront régulièrement des averses, notamment sur l'est. Sur le nord-ouest, le vent de secteur est de 5 à 10 nœuds s'orientera au sud-sud-est entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, le vent d'est à sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds, Michael.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est avec vous que se referment les pages de ce journal.